Alors aujourd'hui, surprise, journée exceptionnelle puisque j'ai deux invités, j'ai la chance d'avoir deux invités, vous Aliette et vous Stéphane. Alors pour deux sujets plutôt habituels, donc vous Aliette pour un film et vous Stéphane pour un livre. Alors Aliette, de quel film allez-vous nous parler ?
De Dersu Uzala de Kurosawa.
Ah. Et vous Stéphane ?
Je vais parler de Ubik de Philippe K. Dick.
Ok. Et alors, donc, qui commence ?
Moi, je vais bien commencer.
D'accord. Alors, Aliette, Dersu Uzala, dites-nous un peu de quoi ça parle.
Coup de cœur pour ce film, donc, d'un Japonais. Mais ce film est à la fois japonais et soviétique, enfin, oui, russe. Et c'est une histoire vraie d'un homme, donc Vladimir Arseniev, c'est ça, qui est un homme né en 1872, qui est mort en 1930, qui était dans l'armée russe et qui était chargé de relevés topographiques. Enfin, c'était un homme qui avait beaucoup de compétences et dont j'ai lu un peu la biographie, dont la fin a été tragique parce qu'il a été condamné, mais il s'est enfui et sa femme a été exécutée pour les mêmes chefs d'inculpation, donc de trahison. Et la fille a été, sa fille, donc Nathalie, a été gardée en maison, enfin en camp plutôt, pendant 15 ans. Donc cet homme a sillonné toute une partie limitrophe de la Sibérie et au moment de ses relevés topographiques, il a rencontré cet homme étonnant, Dersu Uzala, qui est une sorte de trappeur, qui est une sorte d'homme sauvage. Et tous les deux ont créé cette amitié à la fois taiseuse, virile, tout à fait séduisante. Et cette amitié m'a vraiment touchée, en dehors d'autres aspects de ce film que j'ai trouvé d'abord très très beau, très poétique, très nostalgique aussi. Et donc voilà, je souhaitais parler ici de différents éléments de ce film qui m'ont énormément séduite. Déjà il y a des décennies, je l'avais vu il y a très longtemps, et j'avais gardé beaucoup d'émotions, enfin cette émotion d'abord de ces images, de ce film que je pourrais qualifié de film muet. Il y a quelques mots, mais qui ajoutent bien sûr quelque chose d'une émotion à ce film, mais qui ne sont pas l'essentiel de ce film, qui est d'abord une succession de contrastes entre une contemplation très poétique et puis ensuite une sorte de guide de survie au moment où il se passe des choses étonnantes dans cette forêt, dans cette nature sauvage, dans cette nature en colère aussi, et qui permet à cette amitié de se renforcer. Et puis ensuite, toute l'émotion de cette relation forte entre les deux hommes et de leur séparation.
Voilà, donc en effet, l'action se situe à l'extrême-est de la Russie.
Oui.
La limite de la frontière avec la Chine.
Avec la Chine, oui.
Donc pas très loin de Vladivostok, un petit peu au nord.
C'est ça.
Et alors, ce que j'ai noté, c'est qu'il descend d'un fleuve qui s'appelle... Enfin, une rivière qui s'appelle l'Oussouri.
Oui.
Et qui est un affluent du fleuve Amour.
L'Amour, oui.
C'est une région aussi qui est donc juste en face du Japon. Alors, oui. Je ne sais pas si c'est un lien, parce que je pense que Akira Kurosawa a plutôt lu le livre, justement. Les livres, d'ailleurs, parce que c'est tiré de deux livres.
De Vladimir Arseniev, oui.
Voilà, c'est ça.
Mais surtout, il avait été... Kurosawa avait été envoyé, au moment d'une grave dépression, il avait été envoyé dans cette région... d'Asie, et il avait récupéré quelque chose de sa bonne santé, et il avait été déjà séduit par la nature et bien sûr par les lectures qu'il avait faites sur ce trappeur et cet homme. Voilà.
C'est ça. Et pour lui, il pouvait tourner ce film que dans le lieu réel.
Dans ce lieu, ouais. C'est ce qu'il avait exigé. Et en fait, quand on connaît un petit peu la filmographie de Kurosawa, on s'aperçoit que c'est un moment très différent, avec un style très différent, avec des cadrages différents. Enfin, c'est un nouveau film dans sa filmographie avec Dodescaden, qui avait juste précédé.
Voilà, et c'est marrant que vous parliez de films... noir et blanc, enfin non, de film muet, pardon, parce que c'est vrai que moi, dans la manière de filmer, j'ai retrouvé des... C'est un film de 1975,
oui.
Et
oui.
J'ai retrouvé vraiment des manières de filmer, justement, oui. De l'époque du muet, limite début du parlant,
oui.
En fait. Voilà.
Et donc, chacun des mots, des rares mots sont précieux et chaque fois porteurs avec une grande intensité de soit de la peur de ces hommes dans cette nature déchaînée, soit de la création de cette relation si forte entre ces deux hommes. Voilà. Alors, au risque de vous étonner, ce qui m'a émue aussi, c'est un contraste entre ces deux hommes qui rappelait un peu les comédies américaines où l'essentiel du scénario est bâti sur un contraste. Dans les comédies américaines, Capra, Cukor, etc., c'est l'émotion de deux personnes dont on devine très vite qu'elles vont tomber amoureuses, cette fois-ci bien sûr, mais dont tout les oppose. Et là, c'est un petit peu ça que j'ai retrouvé. Tout oppose ces deux hommes. Et leur rencontre est très vive à ce sujet et immédiate. Et bien sûr, dans ce contexte, avec le feu de camp, le feu de bois, la lumière très chaude, avec aussi très vite dans la nature, pas seulement le fleuve sauvage, mais aussi la glace. Et puis deux épisodes très très forts où il est question évidemment de survie. Et là, ça m'a rappelé à la fois les livres de Sylvain Tesson, avec ces mois de cabane sur le lac Baïkal, avec donc le film qui en a été tourné aussi avec donc les forêts de Sibérie. Donc on retrouve la solitude, on retrouve une nature qui peut rester immobile et statique pendant des mois, et en même temps avec le danger. Et ce que je voyais dans ce film aussi, c'était une sorte de volonté de montrer que cette nature, elle peut être un lieu de vie à condition, et de survie, à condition quand même de trouver d'autres personnes. Et dans le film d'Ersu Ozala, il y a également un autre personnage qui est un vieil homme chinois qui vit là depuis des décennies et qui est très menacé, non seulement par la nature, mais aussi par la folie. Et on le voit bien au moment où le capitaine va à sa rencontre et cet homme, ce vieil homme chinois, est tellement surpris qu'il renverse la boisson et le potage que le capitaine lui apporte. Il est très très troublé et il va mourir très peu de temps après d'ailleurs. Et donc c'est oui le salut grâce à une grande capacité de sagacité, de savoir-faire, de ce génie très illustré, très bien illustré par le personnage de Ersu Ozala, mais aussi par la capacité d'être deux. Et c'est ce qu'on voit dans la scène où il y a cette tempête en plein désert. Et au début, les deux hommes, donc le capitaine et Ersu Ozala, marchent pour des projets donc professionnels, si je puis dire entre guillemets. Et au bout d'un moment, Ersu Ozala découvre effectivement un danger nouveau et les deux hommes passent un temps à ramasser des joncs et à se préparer à traverser toute la nuit dans cette tempête. Et leur survie vient des deux, à la fois du savoir-faire de Ersu Ozala, mais aussi de la capacité du capitaine qui est d'habitude chef. Là, il est bon second et il survit. Et j'aime beaucoup évidemment la scène où ils se serrent la main le matin au lever du soleil parce qu'ils ont pu survivre à ces aléas. Et puis il y a l'autre scène très forte, évidemment, où c'est un bateau à fond plat qui dérive et cette fois-ci c'est Ersu qui est en grand danger et il y a cette capacité de tout le groupe, donc de la troupe, à se mobiliser pour permettre à Ersu d'être rattrapé dans ce fleuve. On abat un arbre, etc., etc. Et là, ça m'a rappelé tous les westerns américains, les films de John Ford, évidemment, avec à la fois, on retrouve tous les classiques, la nature, la solidarité entre les hommes, l'adversité, qu'elle soit de la nature ou bien des autres. Et là, on voyait bien aussi, d'ailleurs, dans le film de Ersu Ozala, il y a aussi la menace d'autres hommes qui sont plutôt dans vouloir détruire, voler, s'opposer. Et il y a toute une partie donc assez courte, mais très intense aussi, de révolte, de protestation et de colère, à la fois de Ersu et du capitaine, sur la maltraitance qui pourrait exister aussi dans ces lieux de nature sauvage.
Alors donc le film est en deux parties en fait, donc une partie très distincte. Mmh. Oui. Et donc une première partie où, avec la rencontre et la séparation, parce que c'est la fin de la mission du capitaine.
Oui, hein. Avec cette très belle scène à la fin.
Oui, c'est ça. Et ce qui donne l'impression, en fait, moi j'ai cru que c'était
marqué fin. Oui, oui.
Et en fait, non, donc le capitaine, avec une équipe à peu près la même, revient cinq ans après. Et donc retrouve un peu par hasard, mais enfin, moi, j'ai vu que c'était par hasard, mais j'y crois pas trop.
Non, moi non plus.
Voilà. Donc Dersou Uzala, et par contre là on assiste un peu à la vieillesse de Dersou, et qui commence à perdre la vue, à ne plus savoir tirer
avec son fusil.
Et voilà, et donc pour lui c'est...
Il perd sa pipe,
c'est vrai. Oui. Et pour lui, donc pour Dersou, c'est la fin de sa vie, quoi, pour lui.
C'est pas la fin de sa vie, c'est le début d'une autre tranche de vie où il perd son acuité visuelle, son acuité aussi. Enfin, il perd ce qui faisait de lui cet homme exceptionnel, équipé pour vivre dans ces conditions difficiles. À ce moment-là, le capitaine n'est plus seulement son second dans cette... traverser donc des aléas de la nature, mais il devient une sorte de chaperon. Il lui propose de venir habiter donc en ville dans sa famille. Dersou est reçu avec beaucoup de bienveillance par l'épouse du capitaine et le fils, mais nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne peut plus être greffé dans cette ville par cet homme sauvage. Et il y a encore ce gage d'attachement fort entre les deux au moment où le capitaine lui dit retourne dans ta forêt, c'est là que tu vis, et lui donne ce fusil dont on saura ensuite que ça va être l'objet de concupiscence de la part sans doute d'un voleur, de quelqu'un rencontré. Et donc ce moment tellement douloureux aussi à la fin, où le capitaine est informé qu'on a retrouvé cet homme mort, et avec les coordonnées, on dirait aujourd'hui, les coordonnées donc de cet homme qu'il avait reçu dans cette ville, donc les coordonnées du capitaine. Le capitaine est invité à venir reconnaître le corps de Dersou, il le reconnaît, et il y a ce moment aussi silencieux, évidemment, que dire, d'émotion forte, où juste au moment où on va enterrer Dersou sur place, et il y a cette légère malice de Kurosawa, où il y a encore ce contraste entre les deux rythmes, les deux temps, les deux logiques de vie, au moment où l'officier d'état civil s'impatiente parce que le capitaine prend du temps pour se recueillir, pour pleurer aussi, pour redire le nom de Dersou. Et l'officier lui dit « Bon, je n'ai pas que ça à faire, quoi. Dépêchez-vous, on veut boucler ce dossier, on veut boucler cet enterrement. » Et j'ai trouvé ça donc aussi très en relation avec la première partie du film, où nous sommes dans un autre temps, un autre espace-temps surtout, où le temps ne compte pas de la même façon. On est dans la nature avec quelque chose qui est impératif. Et puis donc ça rappelle la toute première image de la première partie du film, où le capitaine revient sur place avec l'espoir de retrouver la tombe de Dersou. Il ne retrouve rien du tout, les arbres ont été abattus, voilà. Et ça redit aussi ce contraste entre nature et culture, en fait, on pourrait dire ça, voilà.
Et moi, ce qui m'a touché dans ce que vous avez dit sur l'histoire de ces deux hommes, c'est la notion de voyage, c'est-à-dire en allant loin de chez soi, on peut se rencontrer parce
oui.
que
oui.
Chacun est parfaitement qui il est quand même,
ah oui.
mais
oui.
Libre des codes et des obligations de chez soi,
oui.
et dans un
oui.
lieu où chacun peut oui. être libre de se rencontrer justement.
De se rencontrer,
ouais.
oui.
Et moi j'aime beaucoup cette idée de rencontre en allant loin de chez soi.
Et en même temps, Dersou, il est chez lui dans cette forêt. C'est
oui.
ça. Et donc, le contraste, merci pour cette évocation, parce que lui, cette nature lui appartient, cette forêt lui appartient, avec tous ses mystères, avec ses codes aussi. Et quand ils reviennent tous les deux dans la ville où habite donc le capitaine, là, c'est effectivement cet espace très restreint, avec des codes très différents, qu'à ce moment-là, Dersou ne supporte plus.
Ouais.
Mais, et donc, merci pour cette référence-là. Ce que je n'ai pas aussi dit, et ça pourrait être une passerelle entre les deux cultures et les deux lieux, ce sont les chants qui sont chantés plutôt par les officiers qui sont repris aussi par les autres personnes. Et ça fait effectivement, sans que ce soit un langage, c'est un langage plutôt universel, et les chants disent ça, le lien qui se crée.
Voilà, alors après aussi, donc, parler un petit peu de casting.
Oui.
Et en fait, donc, le casting a été assez rapidement fait.
Surtout du fait de l'autorité de Kurosawa.
Voilà, et en fait, il a eu le choix, pour le rôle de Dersu, il a eu le choix entre plusieurs personnes, dont une qui était un descendant de Dersu, justement, et qui ne correspondait pas. Et quand il a vu donc, Maxime Mounzouk, il a dit c'est lui. Il a dit ah voilà Dersu. Et c'était voilà. Et
très bon casting.
Voilà. Et donc Arseniev, c'est Yuri Solomine qui joue ce rôle-là et qui était en fait à l'hôpital au moment où il a entendu que Kurosawa allait tourner ce film. Il le savait parce que déjà avant-guerre, il voulait le faire en fait ce film Kurosawa. Oui. Et il est vite sorti de l'hôpital, il a dit j'ai arrêté mon traitement, je suis vite sorti et je suis allé le voir. Et on l'a appelé aussi, donc on l'a appelé pour jouer un rôle, et il a demandé quel rôle, parce que lui était prêt à jouer n'importe quel rôle dans ce film-là. Et quand on lui a dit que c'était celui-là, il était heureux comme tout. Quoi. Voilà. Autre chose à dire, Aliette ?
Je parle souvent d'un coup de cœur que j'ai eu pour un film qui s'appelle Nostalgie de la lumière, et là j'avais envie de sous-titrer mon coup de cœur comme Nostalgie de la taïga.
Ah oui.
Avec tout ce que ça évoque, qui va directement à notre cœur d'enfant aussi, sur quelque chose de sauvage, de quelque chose où il faut être futé, astucieux, où il faut avoir cette conscience de quelque chose à respecter, mais aussi de quelque chose qui ne livre pas ses secrets facilement. Et donc, en regardant ce film, j'ai à la fois 7 ans, avec encore mes lectures du Club des 5, quasiment. J'ai 12 ans dans cette volonté d'amitié profonde. Et puis, j'ai aussi tous les âges, tous les autres âges, par rapport à ces questionnements sur la nature, donc la nature qui peut être en colère, mais aussi la peur de la solitude et la nécessité d'apprendre à vivre avec des personnes plutôt qui ne ressemblent pas, et c'est tant mieux parce que ça crée cette tension tellement intéressante. Et puis ensuite, tout le chagrin d'une vie qui passe avec ces séparations, soit parce que c'est la vie qui l'exige, soit par rapport à la mort, mais aussi toute cette question de la perte, perdre les autres, mais aussi perdre des facultés de s'ébrouiller seul et perdre la vie aussi. Donc ça m'a infiniment touchée, plus toute la tendresse qui est évoquée en quelques images très courtes de cette vie de famille, du capitaine.
Du petit capitaine.
Et du petit capitaine, voilà. Et du petit capitaine qui, bien sûr, crée une relation privilégiée avec Dersu. Et ça, c'est très émouvant aussi. Donc toutes les images m'ont infiniment touchée. Et m'ont parlé en direct, voilà. D'où effectivement la première chose que je disais, ça pourrait être un film muet pour garder la poésie des images et pour garder la profondeur de cette évocation et de cette nostalgie.
Merci Aliette pour ce film. Rendez-vous peut-être pour le prochain film dont vous avez parlé juste tout de suite.
Oui, très volontiers. Nostalgie de la lumière.
Bon.
Merci.
Et moi, je voudrais faire juste une petite remarque, parce que on parle souvent de la facilité des enfants de se faire des amis.
Oui.
Et dans les âges que vous avez mentionnés, 12 ans pour se faire des amis.
Oui.
En fait, mais il y a aussi cette notion de voyager, puisque le terrain vague derrière la maison, à 12 ans, c'est déjà peut-être la taïga.
Et ça, des amis qui ne seraient plus simplement les enfants des amis des parents.
Oui, c'est ça.
C'est ça, tout à coup, il y a une plus grande permission de se lier avec le cancre de la classe ou celui qui a déjà investigué le terrain vague, alors que les parents nous ont encore dit de ne pas trop y aller. Merci, c'est tout à fait ça.
Alors Stéphane,
nous changeons complètement d'univers, puisque nous allons en Californie en 1969, quand ce livre est sorti. Donc c'est un, C'est un univers de modernité qui entre par effraction, je trouve. Moi, c'est un livre, la première fois que j'ai lu ce livre, j'avais 14 ou 15 ans. Et ce livre m'a beaucoup marqué parce qu'il remettait en cause beaucoup de choses. Et donc, il m'a déstabilisé. C'est la première. Je lisais beaucoup de livres de science-fiction à l'époque déjà. Et la grande tradition américaine de science-fiction, souvent, c'est c'est quelque chose de très positif, de foi dans la science, foi dans le progrès. On va devenir un empire galactique, on va pouvoir aller partout, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Et donc Philippe K. Dick, c'est le premier qui intervient sur ce terrain de la science-fiction et qui pose une vision complètement différente. Il va dire l'avenir n'est pas forcément si facile, l'avenir est peut-être plein de dangers, et l'avenir, on n'est peut-être même pas sûr de ce que ça veut dire. Et dans ce livre, il nous met dans un monde un peu dans le futur, avec des technologies qu'on comprend mal. Donc on est dans un univers qui se passe, selon les codes de la science-fiction, dans l'avenir, mais avec un rapport très différent avec la technologie et le progrès. D'abord, il y a une technologie qui est présentée d'une manière ambiguë, qu'on comprend mal, un peu comme certaines personnes qui ne sont pas très confortables avec les ordinateurs ou les trucs modernes. Il nous invite à aborder ce futur un peu de cette façon-là. Donc, par exemple, il y a un appareil qui permet de mesurer des ondes résiduelles dans les cerveaux des personnes qui sont mortes récemment et qui permet d'avoir un dialogue avec ces traces d'esprit, on va dire, qu'on pourrait possiblement détecter et mettre en œuvre avec une technologie qui est assez mystérieuse, qui n'est pas expliquée. Et donc, l'histoire de ce roman, on est aussi dans un monde très capitaliste, d'entreprise, et où la concurrence, la compétition, tout ça est très important, et joue avec la technologie. Et il y a dimension, c'est il y a des pouvoirs spéciaux, il y a des gens qui peuvent lire dans les esprits, il y a des gens qui peuvent brouiller les télépathes. Donc il y a une espèce de course aux armements organisée par des entreprises qui louent des télépathes pour les espionner, et d'autres qui louent des brouilleurs pour empêcher les télépathes. Et donc ça, c'est un contexte comme ça très un peu angoissant, on peut dire. Et donc ce qui a beaucoup marqué le talent de Philippe K. Dick, c'est de créer des mondes, des réalités où on n'est jamais très sûr de ce qui se passe. Et dans beaucoup de livres, ce qu'il arrive à faire, c'est d'entraîner le lecteur à douter. On parle d'une première réalité, puis après quelque chose se passe, et finalement on doute de savoir si on était dans une réalité ou dans une illusion. Et j'ai lu une critique qui disait que c'était une façon pour lui de remettre en cause, par exemple, toute cette confiance dans la science, qui serait l'étude des faits, de la réalité, de l'objectivité. Et Philippe K. Dick, il pose en opposition en disant « Mais déjà, la réalité, on n'est pas sûr de ce que c'est. Et si on n'est pas sûr de ce que c'est la réalité, tout ce qu'on appelle fait, tout ce qu'on appelle objectivité, c'est pas si établi, c'est beaucoup plus mouvant qu'on peut le penser. Et donc, le progrès de la science, c'est pas forcément le progrès qu'on imagine. » Et donc ce livre, je ne vais pas vous donner les intrigues, mais en gros, il nous amène à douter, à petit à petit douter d'une réalité, et puis de penser qu'on a enfin retrouvé un terrain ferme où l'histoire se passe, puis finalement encore pas. Et ça, c'est C'était vraiment une façon très nouvelle d'entrer dans la science-fiction. Il y a d'autres personnes qui ont eu aussi cette vision d'un futur qui ne serait pas un futur simple, parfait et joyeux, et qui pose des questions de quel est notre rapport avec, l'organisation de la société. Donc là, en l'occurrence, c'était le contre-exemple de la société américaine. Donc est-ce que le commerce, le capitalisme, la science, le progrès, tout ça, est-ce que c'est vraiment ce qui va nous emmener à là où on souhaite aller ou pas? Et pour moi, qui l'ai relu récemment pour me souvenir un petit peu en détail, je trouve que ce qui est particulier chez Philip K. Dick, c'est que c'est quelqu'un qui a pris une position très originale. Je ne sais pas vraiment qui il était ou sa vie, etc., mais il est toujours présenté comme quelqu'un qui avait un côté assez paranoïaque, peut-être un peu schizophrène, et qui avait largement exploré toutes les substances pour connaître des réalités alternatives. Et pour moi, c'est quelqu'un qui s'est posé comme étant peut-être que ma façon d'aborder le monde n'est pas comme la vôtre, mais je vais l'assumer comme sujet. Et je trouve que ce roman, par exemple, c'est un petit peu une... comment je pourrais dire ça? Pas une escroquerie, vraiment, mais il rentre... il prétend faire un livre de science-fiction, alors qu'en réalité, je trouve qu'il fait un livre où il nous amène à penser comme lui, à voir comment il pense, et à voir comment, quand la réalité n'est pas sûre, quand on ne peut pas se fier à ses sens, quand on ne peut pas se fier à ce qu'on croit, alors quel genre de stratégie, quel genre de mode de relation avec les autres on peut mettre en place pour être sujet quand même, et pour se prendre en charge soi-même. Mmh. Et ça, je trouve, c'est peut-être ce qui dérange dans ce livre, finalement, qui n'est pas explicite du tout, enfin, c'est ma lecture. Et c'est quelqu'un qui décide, dans un monde très en opposition justement avec ce style de la science-fiction où tout est trop normé, très identifié, organisé, de dire ben voilà, moi je suis dans une autre façon, une autre modalité avec le monde, et je vais vous emmener, sans vous le dire, à expérimenter ça.
Ah oui.
Et ce que je trouve qui est très fort avec cet écrivain, c'est que non seulement il a pris ce parti d'être sujet de qui il était, comme il était, mais en écrivant ses livres, il a réussi à gagner sa vie, il a réussi à vraiment exister sans être jamais considéré comme le patient de quelqu'un, ou le sujet l'objet d'une maladie, ou des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui donne la force à ces livres en souterrain.
Alors, ce que j'avais vu sur ce livre, c'est je trouvais que ça parlait un peu de notre époque déjà, puisque c'était justement, il posait la question du pouvoir des entreprises qui gèrent le monde, finalement, à la place du pouvoir politique.
Oui.
Et je me suis dit, tiens, sur un livre qui date donc de fin des années 60, ça ressemble beaucoup en fait à la question que moi je me pose actuellement. Quoi. Donc, ou alors peut-être que c'est une question que les hommes se sont posées depuis que le capitalisme existe.
Mais pour lui, c'était aigu comme question, puisqu'il se positionnait comme personne contre un système, justement. Et, et effectivement, lui, il avait cette crainte et cette vision aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses très justes dans ses craintes de l'avenir. Et il a une phrase, enfin, il y a une citation qui lui est attribuée, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais que j'aime bien, c'est « C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas vraiment des ennemis.
» Oui, oui.
Donc lui, voilà, c'est quelqu'un qui disait « Je veux exister comme je suis et je me méfie de vos systèmes. » Et quelque part, il avait raison, parce que la manière dont la technologie privatise, privatise les informations, notre intimité de plus en plus, prend une position de contrôle et de surveillance, c'est finalement pas très loin de ce qu'il avait imaginé à l'époque. Même s'il l'avait imaginé sous des... avec par exemple des télépathes qui allaient chercher nos pensées secrètes, mais finalement la plupart d'entre nous sont volontaires pour les livrer directement
sur internet,
sur les réseaux sociaux et sur internet.
Bien, Stéphane, avez-vous quelque chose de plus à dire sur ce livre?
Je vous engage à lire les livres de cet auteur en pensant à l'époque où il les a écrits et au monde où nous sommes aujourd'hui. Et moi, je suis toujours très touché par les auteurs qui parlent de nous aujourd'hui depuis un monde qui n'existe plus. Ça me touche beaucoup.
Moi, je suis pleine d'admiration pour cette curiosité qui embarque sur des terrains que moi, je ne connais pas pour le moment. Dans ma vie, il y a la science d'un côté, la fiction de l'autre. J'ai toujours été très troublée par l'association des deux. Là, vous avez dit un mot dans lequel je me retrouve, c'est angoisse. Et quand vous avez dit ça, je me suis dit que ce qui me passionne, c'est la façon dont chacun se débrouille pour survivre et pour accéder à une autre façon, donc, qui est la vie. Et donc, j'ai vraiment envie d'en savoir davantage sur les modalités de cet homme pour être sorti de sa propre prison et pour avoir trouvé une modalité pour se faire exister. Et en même temps, la question que je vais retrouver avec cette lecture, c'est: est-ce que cet homme, dans son écriture, se serait débrouillé pour nous faire passer l'angoisse dans laquelle il était? C'est-à-dire, pour se décharger de son angoisse, comment est-ce qu'il l'a fait vivre par les autres? Voilà, ça sera la question que je vais garder pour cette lecture. D'accord. Mais je suis très intéressée par la façon dont vous en parlez et dont vous-même, vous êtes laissé accompagner par cet homme sur cette route-là. Voilà, vraiment. Merci Stéphane.
Eh bien, merci à vous deux. Donc, Aliette, je rappelle, Dersouzala. Que j'ai pu emprunter à la médiathèque Melville dans le 13e, donc vous trouverez ce coffret dès que je l'aurai rendu,
oui.
Avec d'autres films dans ce coffret, 4 films en tout. Et Stéphane Ubik, où est-ce que je peux le trouver?
Il est absolument partout.
Dans
c'est un classique, il doit être dans toutes les bibliothèques.
Oui.
D'accord.
Et dans pratiquement toutes les librairies.
Oui.
Bon, je vous remercie à tous les deux.
Merci
Franck. Et puis rendez-vous...
à bientôt.
Et puis rien du tout.
Je peux faire un petit paragraphe en plus?
Oui.
Alors, au sujet de l'angoisse qu'il transmet, les en-têtes de chapitres sont très très bien dans ce livre, puisqu'ils sont rédigés comme des messages publicitaires au sujet d'un produit qui s'appelle Ubik, qui est donc le titre du livre, qui parle de cette chose qui est partout et qu'on comprend mal. Et dans ces messages publicitaires, l'angoisse est inclue, puisqu'il y a toujours le double message qui est « Si vous dormez mal, prenez le somnifère Ubik, vous dormirez mieux que jamais de votre vie, absolument sans danger, si vous respectez scrupuleusement les instructions d'utilisation. » Et à chaque fois, c'est deux messages dans chacun des titres de chapitres sur ces faux messages publicitaires.
Je vois comme ça vous amuse.
Oui. Eh bien, merci donc à tous les deux. À très bientôt.
À bientôt, Franck.
À bientôt, Franck.